Radio Okapi.
Bonsoir à toutes et à tous. Radio Okapi vous informe clair et direct. Installez-vous. Le journal commence avec les titres. Nord Kivu, Amnesty International lance une alerte choc. Un rapport publié le 25 juin 2026 dénonce des graves violations de droits humains à Rutshuru et met en cause le groupe armé CMC-FDP affilié au Wazalendo avec des commandants directement accusés d'exactions. RDC, les États-Unis serrent la vis sur les minerais. Sanctionnée par Washington, la raffinerie Gasabo Gold est accusée de participer à un réseau de trafic de minerais en lien avec le M23, une mesure destinée à protéger les ressources congolaises et à affaiblir les financements des groupes armés. Exeta 2026, Iber, Kimbonza dit tout, organisation défi rencontré, innovation et délai de publication de résultats. L'inspecteur général à l'éducation nationale dresse un bilan globalement positif de cette session nationale d'évaluation. Nord Kivu, l'alerte est relancée, les civils à nouveau en danger. Amnesty International publie ce 25 juin 2026 un rapport accablant qui dénonce des graves violations de droits humains dans les territoires de Rutshuru. L'organisation pointe du doigt les groupes armés collectifs des mouvements pour le changement, force de défense du peuple, CMC, FDP, affiliés au Wazalendo, accusés d'exactions dans le groupement des Bukombo en territoire de Bwito. Des commandants et combattants sont directement mis en cause dans ces documents qui remet en question la sécurité des populations. Les détails avec vous, Jean Gandou.
Selon l'organisation, le CMC-FDP allié aux forces armées de la République démocratique du Congo serait impliqué dans plusieurs exactions, notamment des tueries de civils, des actes de torture, des pillages ainsi que des enlèvements des femmes, certaines étant réduites à l'esclavage sexuel. Le rapport indique que ce groupe opère principalement dans le groupement de Bukombo et ses environs, une zone marquée par la présence du mouvement rebelle AFC M23. Après des affrontements avec ce dernier, des combattants de CMC-FDP mèneraient des représailles contre des civils accusés de collaboration en violation du droit international humanitaire, des actes pouvant constituer des crimes de guerre. Amnesty International s'appuie sur une dizaine de témoignages de victimes évoquant ces formes de violence. L'organisation souligne que ces abus plongent les populations locales dans une situation critique prise entre les violences du M23 et celles du CMC-FDP. Le rapport pointe notamment le rôle du chef du mouvement, le général autoproclamé Dominique Ndaourutier, ainsi que celui de certains de ses combattants accusés d'être des responsables parfois en collaboration avec les FDLR basés dans la région. Amnesty International appelle la communauté internationale à faire pression sur le gouvernement congolais afin qu'il mette fin à tout soutien à ce groupe armé.
Les FARDC affirment ne pas être encore en possession de ce rapport. Elles promettent toutefois de réagir dès qu'elles en auront pris connaissance. Après ces révélations préoccupantes au Nord Kivu, restons dans l'Est du pays où la situation sécuritaire continue d'inquiéter. Au Sud Kivu, précisément dans la zone de Minembwe, en territoire de Fizi, la tension reste vive et les climats particulièrement volatiles. Selon des sources locales, des violents affrontements ont opposé mercredi les FARDC aux combattants de la coalition armée Tulanero, appuyée par leurs alliés dans le village de Ilundu et Alengei. Si la rébellion accuse l'armée d'avoir mené des bombardements à l'aide de drones, plusieurs acteurs locaux parlent plutôt d'une tentative de diversion pour se dédouaner. Pendant ces temps, la situation humanitaire demeure alarmante pour les populations. Le point avec Sephora Mpaka.
Pour la société civile locale, les attaques incessantes des rebelles Tuiruaneo contre les positions reconquises par le FARDC sont à l'origine d'un nouveau mouvement de déplacement de la population. Une situation confirmée par l'élu du Sud Kivu, Béatrice Navano, qui déplore l'impasse dans les accords entre les belligérants.
Jusqu'à quand ce bombardement des rebelles prendra fait dans notre pays? Ils bombardent. Il viole les femmes, il tue la population sans pitié et personne n'en parle, mes frères et sœurs. Je ne cesserai jamais de réveiller la conscience de nos dirigeants, d'éradiquer une fois pour toutes cette force de criminels dans notre pays.
D'après l'administrateur du territoire de Fizi, les morts et autres vulnérables se comptent par milliers à cause de cette insécurité persistante. Sami Badi Banga plaide pour un changement de ton envers les Tuiroanéo afin d'obtenir un arrêt des hostilités.
La communauté internationale doit cesser sa complaisance et exiger les retraits immédiats de l'armée rwandaise sur le sol congolais.
Lors de la 6e réunion du comité mixte de surveillance CMS sur la situation sécuritaire en RDC, tenu mercredi 24 juin 2026 à Londres, Kinshasa et Kigali, se sont engagés à désamorcer la tension autour des Minembwe en évitant toute rhétorique belliciste.
Cap sur l'Ituri où les autorités entendent accélérer la dynamique de stabilisation. Le gouverneur militaire, le général Gabi Kasongo, poursuit ses prises de contact et a effectué ce jeudi sa première visite officielle à la MONUSCO au camp Dromo à Bunia. Au cœur de cette démarche, mieux comprendre les interventions des casques bleus et renforcer leur collaboration avec les autorités provinciales pour garantir la sécurité des civils et favoriser le retour de la paix. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Cette visite a conduit le gouverneur dans plusieurs installations opérationnelles de la MONUSCO où il a découvert les capacités des contingents déployés ainsi que les mécanismes de coordination mis en place avec les autorités congolaises. Pour le commandant de la force de la MONUSCO en Ituri, cette coopération doit avant tout répondre aux attentes des populations meurtries par des années de conflit. Général Saiful Alam.
Les populations civiles ont déjà trop souffert. Nous devons unir nos efforts et travailler sans relâche pour amener une paix durable dans cette province.
À l'issue de la visite, le gouverneur militaire a salué le professionnalisme des casques bleus et a réaffirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec la mission des Nations Unies. Général Gabi Kasongo.
Mon engagement demeure total pour travailler avec tous les partenaires de bonne volonté afin de ramener la paix rapidement, de protéger nos populations civiles et de créer les conditions favorables au développement socio-économique de la province de l'Ituri.
Cette première visite dans les installations de la MONUSCO illustre la volonté commune des autorités provinciales et la mission de renforcer leur collaboration face aux défis sécuritaires qui persistent en Ituri. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Les États-Unis passent à l'offensive sur les dossiers des minerais congolais. La raffinerie Gasabo Gold, basée à Kigali, est désormais dans les viseurs de Washington. Elle a été sanctionnée par l'Office de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain avec à la clé un gel de ses avoirs. Selon les autorités américaines, cette entreprise ferait partie d'un réseau impliqué dans le trafic des minerais en provenance de l'Est de la RDC avec des liens présumés avec le M23, une décision qui s'inscrit dans le cadre des accords de Washington entre Kinshasa et Kigali avec un objectif clairement affiché, empêcher que les ressources minières congolaises ne servent au financement de groupes armés. Le point avec Ronelyne Timbonera.
Selon le département du Trésor américain, depuis la prise des contrôles des capitales provinciales du Nord Kivu et du Sud Kivu par le M23, appuyé par le Rwanda, Gasabo Gold est devenu un partenaire clé des autorités rwandaises et des rebelles pour l'approvisionnement et les transports de l'or extrait illégalement dans l'est de la RDC. Le communiqué précise que les forces rwandaises et les rebelles du M23 ont assuré les transports sécurisés de l'or vers Kigali par voie terrestre ou aérienne avant son raffinage. Justifiant ces sanctions, le secrétaire au Trésor américain Scott Bancett déclare « Les États-Unis ne permettront pas à des groupes voyous de tirer profit du commerce illicite des minéraux et de déstabiliser la région. Les richesses minières de la République démocratique du Congo appartiennent légitimement au peuple congolais. » Outre Gasabo Gold, ces sanctions visent également Jean-Malik Kalima et Bosco Kayoboti, respectivement président et directeur général de la raffinerie ainsi que plusieurs sociétés minières qu'il contrôle. C'est notamment Bugumbira Mine Limited, Wolfram Mining and Processing Limited et Ruinkavu Mining Corporation Limited. A noter que l'Union européenne avait déjà sanctionné Gasabo Gold en 2025 pour son rôle dans l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles dans l'est de la RDC.
Dans la foulée de ces sanctions américaines, les réactions ne se font pas attendre à l'est de la RDC. La société civile du Nord Kivu s'est dit satisfaite des mesures prises contre la raffinerie. Gasabo Gold et ses dirigeants qu'elle accuse d'implication dans les trafics de minerais dits de sang en complicité avec le M23. Mais pour son secrétaire exécutif, cela reste insuffisant. Placide Nzilama appelle les États-Unis ainsi que d'autres partenaires internationaux à aller plus loin jusqu'à la dissolution complète du mouvement rebelle. Il est au micro de Ronelyn Timbonera.
Cette attitude que les États-Unis viennent de prendre aujourd'hui pour sanctionner l'usine de raffinerie Gasabo du Rwanda pour avoir trafiqué l'or venant des zones à conflit ou l'or des sangs fait suite effectivement à cette loi-là Dodd-Frank de l'époque que les États-Unis avaient édictée à l'égard de toutes les entreprises américaines qui pouvaient traiter avec les groupes armés ou même toute autre entreprise qui achèterait des minerais venant des zones en conflit. Nous encourageons encore les autres pays aussi à prendre d'autres sanctions à l'égard du Rwanda, les autres aussi organisations régionales à prendre les mêmes sanctions à l'égard du Rwanda pour l'obliger à arrêter ses velléités guerrières et criminelles en République démocratique du Congo et même dans la région des Grands Lacs. Parce que cette guerre ne trouble pas seulement la vie au Congo, trouble aussi la vie dans la région des Grands Lacs, en Afrique et même dans le monde entier. Parce que les effets de cette guerre arrivent même dans les grands marchés du monde et même dans d'autres continents. À notre niveau, c'est dire qu'il faut l'arrêter pour donner la paix au monde entier.
À Kananga, dans le Kasaï central, les carburants deviennent presque introuvables et le prix explose. Le litre d'essence se négocie désormais entre 5 500 et 6 500 francs congolais contre environ 3 500 francs il y a à peine une semaine. Selon les vendeurs, cette situation est liée à une pénurie du produit sur le marché. Conséquence directe, les frais de transport augmentent et les habitants rencontrent de plus en plus des difficultés pour se déplacer. Le point avec André Katinde, Ngala Moulumé.
L'essence devient un luxe à Kananga. En une semaine, le prix a presque doublé. Chez les revendeurs appelés localement Kadhafi, les litres se vendent désormais à 5500 francs congolais. Dans certaines stations-service, il atteint même 6500 francs. Il y a pourtant une semaine, les litres coûtaient environ 4000 francs à la pompe et 3200 francs chez les revendeurs. À l'origine de cette flambée, la pénurie des carburants, une situation qui complique le quotidien des habitants. Les tarifs du transport ont également augmenté. Pour de nombreux usagers, se déplacer est devenu un véritable défi. Boniface Kapanga en témoigne.
On payait 500 francs de Benemoukangala à Notre-Dame, mais actuellement, on a commencé à payer 1000 francs.
Les grossistes évoquent aussi des difficultés d'approvisionnement. Habituellement, ils se rendent à la frontière angolo-congolaise pour acheter du carburant. Mais sur place, les produits s'est fait de plus en plus rares et les prix ont fortement augmenté. Une vendeuse explique. À la frontière où nous allons acheter les carburants, on n'en trouve presque plus. Et même en Angola, d'où il provient, les prix ont augmenté. Les conducteurs des mototaxis n'ont eu d'autre choix que d'augmenter leurs tarifs. Mais cette hausse décourage une partie des clients. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi.
Cap sur le développement agricole en RDC. La deuxième phase du programme d'appui au développement agro-industriel des Ngandajika, les Prodan, est officiellement lancée. L'ordonnance présidentielle a été signée ce jeudi 25 juin 2026. Financée par la Banque africaine de développement, ce programme vise à faire des Ngandajika un véritable pôle agro-industriel au service de la sécurité alimentaire et de la croissance économique du pays. Objectif affiché, augmenter la production agricole, réduire la pauvreté en milieu rural, créer des emplois durables pour les jeunes et les femmes et améliorer les revenus des producteurs. Le docteur Bruno Miteyo Nyenge, notable des Ngandajika, espère voir cette nouvelle phase transformer ses ambitions en résultats concrets. On l'écoute au micro de Richard Junior Kamunga.
La population du territoire d'Ngandajika est très heureuse d'accueillir cette nouvelle. En effet, le chef de l'État, dans sa vision, a compris que le grenier agricole du Kasaï, qui est Ngandajika, depuis un temps, n'a plus joué ce rôle. Et c'est pour ça que, avec des partenaires, en l'occurrence, Banque africaine de développement, notre gouvernement a, grâce à un appui bien réfléchi, et décidé et via le Parlement que Ngandajika redevienne une terre véritablement agricole et rayonne à travers une bonne partie de notre pays, notamment dans la région centre du pays. Et c'est pour ça que sur base de toutes les propositions qui ont été faites, le chef de l'État a pris une ordonnance. Il a décidé que cette deuxième phase puisse démarrer. Nous le remercions très grandement. Nous remercions également toutes les parties prenantes et nous félicitons la population et qui a pris conscience et qui a pu obtenir cette décision de la part du chef de l'État.
Au Kasaï oriental, une nouvelle étape s'ouvre dans le secteur minier. Le village de Katende en territoire de Miabi a accueilli ce jeudi le lancement officiel de travaux de prospection géologique. La cérémonie a été présidée par le ministre de Mines avec la participation de l'ambassadeur de Chine, de plusieurs députés ainsi que des autorités provinciales, coutumières et des responsables de la MIBA. Les explications avec Esther Ndalafina.
Le projet baptisé Mika Mine de Cuivre du Kasaï résulte d'un partenariat entre la société minière de Bakwangamiba et deux entreprises privées, LBK Construction SARL et Grec Ressources CRU. Implanté sur les concessions de la MIBA, il vise une production annuelle estimée entre 200 000 et 500 000 tonnes de cuivre. Louis Watum Kabamba, ministre de Mines, estime que ce projet va favoriser le développement de la région.
Le projet dénommé Mika a donc l'ambition de transformer le potentiel géologique du groupe Kasaï en un véritable levier de développement humain, économique et social.
Selon le directeur général de la MIBA, ce projet va générer des recettes et des emplois.
À travers chaque actif valorisé comme celui-ci, cela signifie davantage d'emplois. Chaque kilo ou tonne de minerai qui sera produit, cela correspond davantage à des recettes pour l'État.
L'ambassadeur populaire de la Chine a pour sa part salué une coopération sino-congolaise qui s'est consolide.
Une fois les valeurs économiques et commerciales du projet soient confirmées, cela va revêtir une importance significative pour le développement minier et industriel de la province.
Outre le cuivre, le site de Katende recèle également d'autres minéraux, notamment le cobalt, le zinc et le plomb. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Direction l'Ituri où la riposte contre Ebola se renforce. À Bunia, les tradis praticiens s'engagent désormais à participer activement à la sensibilisation sur le respect des mesures barrières afin de freiner la propagation de cette maladie hémorragique. Cet engagement fait suite à une session de formation organisée mardi dernier alors que l'épidémie touche déjà 22 zones de santé depuis plus d'un mois. Les tradis praticiens donc appellent toutefois à être équipés en matériel de protection pour réduire le risque de contamination. Le point avec Martial Kizabiamongo.
Longtemps accusé à tort ou à raison de favoriser la propagation de la maladie à virus Ebola, les tradis praticiens ont été sensibilisés au mode de transmission de la maladie, aux mesures de prévention et aux bonnes pratiques pour freiner les risques de contamination. Cette activité a été organisée par la Fondation des Aigles pour l'encadrement des vulnérables dans le cadre de son projet intégré Watch et du renforcement communautaire pour la prévention durable de la maladie à virus Ebola à l'Ituri. Ali Massoudi, praticien de la médecine traditionnelle, explique, je cite, « Nous recevons dans nos cabinets des malades qui manifestent des fois des signes similaires à Ebola sans savoir comment se protéger contre cette maladie. Pour le moment, nous sommes bien outillés pour mieux orienter des cas suspects dans les structures sanitaires. Nous demandons seulement que nous soyons dotés des matériels de protection individuelle pour se protéger contre toute contamination. » Fin des citations. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le 25 juin 2026, le gouvernement burkinabé a adopté un décret imposant à tout étudiant souhaitant poursuivre ses études hors du pays d'obtenir au préalable une autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur. Cette mesure, annoncée à l'issue du Conseil de ministres, concerne l'ensemble des étudiants, qu'ils soient bénéficiaires de bourses ou qu'ils financent eux-mêmes leur formation. Elle s'applique également à ceux qui poursuivent leurs études au Burkina Faso grâce au au financement d'organisations internationales. À travers cette décision, les autorités entendent de s'assurer que les parcours académiques choisis correspondent aux priorités nationales. Le ministre a notamment justifié cette initiative en évoquant le cas d'étudiants se retrouvant en difficulté à l'étranger ou engagés dans les filières jugées incompatibles avec les orientations du gouvernement. L'exécutif souhaite aussi mieux identifier les étudiants burkinabés à l'étranger afin d'anticiper leur retour et de favoriser leur contribution au développement socio-économique du pays. Le respect de cette procédure est obligatoire. Le ministère met en garde tout étudiant qui partirait sans autorisation risque de voir son diplôme obtenu à l'étranger non reconnu au Burkina Faso.
L'invité.
L'examen d'État 2026 tient toutes ses promesses avec quelques défis. Plus d'un million de finalistes ont passé ces épreuves du 22 au 25 juin dans plus de 3267 centres en RDC et dans les pays voisins. Invité de Radio Capi, l'inspecteur général à l'éducation nationale, Hubert Kimbonza, s'est dit globalement satisfait du déroulement malgré certains ratés. Bonne nouvelle annoncée, les résultats devrait être publié plus rapidement cette année grâce à un système de scannage renforcé. Hubert Kimbonza s'entretient avec Blaise Ndongala Mayonda. Suivez.
Bonjour monsieur Hubert Kimbonza.
Bonjour messieurs les journalistes.
Quel est le bilan de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2026 qui vient d'être organisée du 22 au 25 juin sur toute l'étendue du territoire national?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le bilan est largement satisfaisant. On a organisé cette session ordinaire à travers 3267 centres, y compris ceux en dehors de notre pays. Et nous avions attendu 1,082,742 candidats, dont 483,842 filles, ce qui présente une très bonne avancée du côté genre pour dire que les filles sont en train de s'efforcer pour être régulières dans des salles de classe et terminer leurs études secondaires. Nous avons pu prouver au monde entier que la République démocratique du Congo, à travers les 2,345,000 km² de la superficie, s'est s'organiser et tous les enfants ont pu passer cette épreuve. En disant tout, il y a effectivement eu des absences. Mais tout pour dire que tous les centres, à travers toute la République, ont ouvert et ont accueilli les candidats.
Alors, qu'est-ce que vous envisagez pour certains candidats qui ont raté un ou deux jours à la suite soit de l'insécurité ou de la résurgence de l'épidémie d'Ebola?
Messieurs les journalistes, retenez que le ministère ne peut organiser une session spéciale que si on apprend quelque part que tout un centre a connu un problème. Mais si c'est un cas individuel d'un candidat, et là, malheureusement, on ne peut rien. Mais pour ce qui est de l'épidémie à Ebola, je vous confirme que nous suivions de près la situation de tous les enfants congolais, y compris ceux qui étaient pris en charge par les centres en rapport avec Ebola. Et ceux qui n'ont pas eu le temps de sortir avaient leur cahier d'items sur place pour le faire.
Après les 4 jours, quels sont les grands défis qui restent pour l'inspection générale?
Le grand défi, c'est de battre notre propre record de publication dans la transparence, la fiabilité et la rapidité. Dans la rapidité, c'est pour vous dire que l'année passée, nous avions publié le dimanche soir, pour ne pas dire la nuit. C'est-à-dire que nous allons tout faire, et ça je vous confirme, pour publier à temps. La fiabilité, c'est dans les process. Faire en sorte que les enfants qui seront publiés soient effectivement ceux qui ont réussi parce que nos machines sont très fiables. Enfin, la transparence, pour qu'en cas de problème que l'on puisse vous montrer noir sur blanc, voilà ce que Blaise Ndongala est sur la photo et voici ce qu'il est réellement. Il est là devant vous, il se promène.
Le pays compte désormais combien de centres d'escanage?
Le pays compte à ce jour 7 centres d'escanage. Nous avons Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimayi. C'était, en plus de cela, nous ajoutons un centre dans l'espace Lubafone, c'est-à-dire Chikapa, un centre dans l'espace Ngalafone à Gemena, un centre dans l'espace Swahilifone Kisangani. Mais Swahilifone, c'est aussi les parties du nord et du sud Kivu. C'est comme ça que Butembo a été aussi récupérés.
Quel est le message que vous lancerez aux intervenants à cette session ordinaire, notamment les inspecteurs, les surveillants, les parents d'élèves, voire les candidats?
C'est le respect du serment des citoyens. Le respect du serment des citoyens, que ce soit pour les candidats, les intervenants au niveau du centre de passation, nous parents, nous promoteurs d'école, comment nous allons vivre les jours qui suivent avec la publication. Chacun de nous a pu s'aimer. Le moment de la récolte est arrivé. Les enseignants ont dispensé les cours. L'unique message, comme les sportifs le disent, d'accepter sportivement, c'est qui sera le verdict, le vrai verdict, que ceux qui vont réussir, continue les études supérieures et universitaires. D'autres peuvent se dire qu'ils se lancent dans le monde des affaires, dans le monde professionnel. Courage. Et pour ceux qui vont échouer, ce n'est pas la fin du monde. Revenez aux études. Et aux parents, ne vous fatiguez pas des enfants si l'enfant n'a pas réussi, parce que il mérite votre soutien.
Monsieur l'inspecteur général à l'éducation, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est à moi de vous présenter mes très sincères remerciements.
C'était Hubert Kimbonza, inspecteur général à l'éducation nationale, invité de Radio Okapi. Avec lui, nous avons fait le point sur le déroulement de la session ordinaire de l'examen d'État 2026, marqué par la participation de plus d'un million des finalistes, ainsi que sur le perspective des publications rapides des résultats cette année. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. L'information continue sur le web, où que vous soyez, et reste disponible en replay sur nos plateformes digitales. Gisèle Cage vous a présenté cette édition. Restez informés sur Radio Okapi, c'est rester connecté. Bonne soirée à tous.